Protocol Calage.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Cavalcalade. Vous êtes en direct sur les bonnes ondes de Calade, ma radio, 100.9 FM. Bonjour Mathieu.
Bonjour Elodie.
Bonjour. Bonjour nos auditeurs. Alors, nous allons aujourd'hui aborder le thème des bancs de l'égalité. Explorons le handicap avec notre invité, monsieur le député Alexandre Portier. Monsieur Portier, êtes-vous là ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Ben écoutez, en vous remerciant d'être présent pour cette émission.
Avec plaisir.
Alors, monsieur le député, est-ce que vous permettez que pour l'émission, j'ai un petit peu l'habitude de tutoyer nos invités, est-ce que je peux ?
Avec grand plaisir.
En vous remerciant. Donc, nous allons aborder le thème de l'inclusion, du handicap à l'école. Un thème qui vous tient à cœur, monsieur Portier. Alors, Alexandre, premièrement, on va se présenter un petit peu. Alexandre, tu es le député de quelle circonscription ?
Donc, je suis député de la 9e circonscription du Rhône, qui compte Villefranche, une bonne partie du Beaujolais, qui court des Pierres Dorées. La commune la plus au sud, c'est Lausanne, et qui remonte ensuite tout le long du Val-de-Saône jusqu'au Beaujolais, c'est-à-dire des communes comme Sens ou Saint-Bonnet-des-Bruyères au nord.
Donc une zone plutôt rurale ?
Périurbaine et rurale essentiellement. Mmh. C'est la seule circonscription du Rhône qui est totalement en dehors de la métropole de Lyon. Donc c'est la plus rurale, avec comme particularité d'avoir la plus petite commune du Rhône, Vernay, oui, quelques dizaines d'habitants, et aussi la plus grande, Villefranche-sur-Saône, avec 37 000 habitants. Donc c'est finalement un bon reflet, oui, de la diversité de la France.
Tout à fait. Alors, nous allons commencer la première partie de l'émission. Je vais donner quelques informations. Évidemment, Alexandre, tu réagis, tu donnes ton opinion, tu n'hésites pas. On va parler du Sénat, qui a adopté une proposition de loi à l'unanimité. Donc ma source, c'est Public Sénat, un article qui a été publié le 24 janvier 2024. Il s'agit de la prise en charge des élèves tout au long de la journée sur le temps scolaire, c'est-à-dire la prise en charge des élèves en situation de handicap sur les pauses méridiennes, chose qui n'était pas le cas avant. C'est une proposition qui a été déposée par Monsieur Cédric Vial. Donc, à l'époque, l'institution, le Conseil d'État, donnait les compétences, a décidé que les compétences seraient à l'État, pour l'État sur le temps scolaire. Et là, on a décidé que ce serait l'État qui rémunérerait le personnel, les AESH, donc accompagnants des élèves en situation de handicap, qui seraient affectés sur le temps méridien là aussi.
Alors, sur ce sujet, c'est un sujet que malheureusement je le connais bien,
oui,
on avait depuis quelques mois et même quelques années maintenant un vrai trou dans la raquette. Il y avait un vrai vide juridique puisque on se retrouvait à la suite d'une décision du Conseil d'État avec l'impossibilité d'avoir un financeur unique des AESH sur l'ensemble du temps scolaire et périscolaire. Et du coup, c'était devenu très compliqué pour les communes, mais je dirais surtout pour les familles. Et ce qui doit primer encore plus, c'était d'abord l'intérêt des enfants. Et donc on avait des fois des ruptures d'accompagnement qui sont extrêmement problématiques, avec des situations qui ont été vraiment hallucinantes. Hein, l'impossibilité pour certains enfants d'être accompagnés sur le temps de midi, et malheureusement, il y a eu beaucoup de faits divers de ce type, des parents qui se retrouvaient à manger dans leur voiture à proximité de l'école, sur le temps de midi, avec leur enfant en situation de handicap. Donc c'est juste invivable pour les familles ce qui s'est produit. Et donc le groupe Les Républicains au Sénat, via Cédric Vial, que je connais bien et dont je salue le travail, a apporté cette proposition de loi qui a été adoptée, et manifestement le message a enfin été entendu du côté du gouvernement, donc j'en suis vraiment ravi.
D'accord, c'est incroyable en 2024 d'attendre 2024 pour prendre ces décisions qui paraissent juste logiques, quoi, en fait. Hein.
Alors, il y a effectivement le fait de devoir attendre 2024, mais c'est surtout que les règles ont beaucoup changé en quelques années. Et du coup, l'une des grandes difficultés qu'on a dans ce pays, c'est que les règles changent en permanence. On met une mesure en place, et elle est à peine mise en place, qu'il y en a une nouvelle qui vient la percuter. Et donc, les règles de prise en charge du handicap ont beaucoup changé dans ces domaines-là, ce qui, pour les familles, rend les choses extrêmement illisibles, et aussi pour les communes hein, qui les accompagnent au quotidien.
Tout à fait, tout à fait.
Oui, j'ai dit. J'ai déjà entendu ce discours aussi dans l'éducation nationale en général, où tous les ans, tous les deux ans, on change les programmes. Mais là, on sort du sujet de l'émission. Donc je ne vais pas aller plus là-dedans.
Alors, puisqu'on parle de changement, je vais parler des annonces de notre cher président à propos des TND. Ce sont les troubles du neurodéveloppement. Alors là, j'ai pris mes infos dans les pros de la petite enfance sur le web, un article du 14 novembre 2023. Donc, les TND, c'est quoi ? Les TND, c'est tous les troubles liés au spectre de l'autisme, tous les troubles liés au DIS, dysplasie, dyslexie, tous les troubles de liés à l'hyperactivité. Donc, la stratégie 2023-2027, les deux mots d'ordre, repérage et dépistage précoce. Alors, pour ce faire, nous allons avoir dans le carnet de santé un livret de repérage des risques de développement inhabituel de l'enfant à chaque examen médical obligatoire. Nous allons avoir aussi plus de formation des professionnels de la petite enfance. L'enveloppe est de 680 millions d'euros pour la formation des professionnels de la petite enfance, mais aussi de l'éducation nationale. La création d'une plateforme PCO, coordination et accompagnement. Enfin, l'accès prioritaire aux places en crèche pour les enfants atteints de TSA, TDAH et TDI, qui sont les troubles que je vous ai cités plus tôt, autistiques, liés au DIS, ou bien encore à l'hyperactivité. Alexandre, une réaction ?
Oui, alors c'est un sujet qui concerne beaucoup de familles, beaucoup plus qu'on ne le croit, sur notre territoire, mais de manière générale en France. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, on les détecte beaucoup mieux qu'avant, et le fait qu'on veuille mettre la détection, le repérage et l'accompagnement au cœur de notre action publique, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Et puis, il y a aussi des vraies questions qui se posent en matière de santé publique, et beaucoup de parents qui des fois disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y en a plus aujourd'hui ?» Et sur ces points-là, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données, et j'aurais bien aimé que dans la stratégie nationale, il y ait plus de place faite à la recherche pour comprendre les causes environnementale, mais quand je dis environnemental, c'est au sens large, c'est-à-dire l'alimentation, les pollutions, les questions de bruit, l'impact des écrans, du numérique, sur l'enfant une fois qu'il est né, mais peut-être en amont de sa naissance, lors des grossesses. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles on est extrêmement démunis aujourd'hui, sur le plan de la connaissance et du savoir, sur lesquelles il faut vraiment qu'on avance. Je pense que c'est un enjeu de santé publique fondamental. Sur la stratégie en tant que telle, il y a six grands axes, il y a six grands engagements, beaucoup de mesures, il y a plusieurs dizaines de mesures dedans. Je suis toujours très prudent quand on a des grands plans comme ça, parce que on a eu par le passé parfois des vrais déconvenus, on a annoncé des choses tous azimuts, et puis quand on a regardé 5-6 ans après l'application, malheureusement, on était souvent déçus. Faute d'avoir des résultats, on se remettait dans l'urgence à annoncer un nouveau plan pour masquer nos échecs. Quand je dis ça, je pense notamment au classement PISA, dans un autre domaine, mais à chaque fois on annonce des plans, il ne faudrait pas que l'annonce du plan ce soit une façon de masquer les difficultés. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'on voit les budgets qui vont être mis en face, et je serai très attentif évidemment à l'Assemblée. C'est une bataille au sens noble du terme, mais il faut que la France donne les moyens de ses ambitions en la matière, et ça ne peut pas être que des discours. Dans tout ça, moi, il y a un axe en particulier qui me tient à cœur, c'est le quatrième axe de ce plan, qui ambitionne d'adapter la scolarité de la maternelle à l'enseignement supérieur. Et ça, c'est un point qui me tient vraiment à cœur pour une raison, c'est que dans mon engagement sur la question de l'instruction des enfants en situation de handicap, sur l'école inclusive, on a réussi beaucoup de choses ces dernières années sur le premier degré. Évidemment, on parle toujours de ce qui ne va pas, mais on a réussi des nets progrès là-dessus. Il faut les saluer. Mais par contre, on voit que sur le secondaire, on a des vraies ruptures. Et le fait que sur l'école demain, on puisse mettre le paquet, mettre toute notre énergie à faire que nos jeunes ne s'arrêtent pas au CM2, en 6e, et puissent aller beaucoup plus loin, traverser le collège, le lycée et aller vers le supérieur, ça me semble être fondamental. Et c'est à cette condition qu'on pourra dire qu'on a tenu la promesse républicaine.
Tout à fait. Puisque en termes de chiffres, tu le disais, je vais le souligner, un enfant sur six est porteur d'un handicap du spectre autistique 10 ou bien lié à l'hyperactivité. C'est énorme. Alors, on va parler évidemment, on parle d'inclusion, on va parler un petit peu d'accessibilité. On a déjà abordé l'accessibilité au niveau des gares, on a parlé de l'espace public, mais j'aimerais aussi souligner les efforts de la grande distribution pour tout ce qui est lié à l'accessibilité et à l'inclusion, là aussi. On va prendre l'exemple très local de Auchan, Loïs Hamon. Est-ce que tu vois ?
Non.
Oui, bien sûr, je le connais très bien.
Alors, Aloïs Hamon, qui est le directeur de Auchan Villefranche-sur-Saône, qui agit très régulièrement qui a un engagement très fort pour les personnes en situation de handicap. Donc, il a lancé l'action avec les pièces jaunes, handisport aussi, et il a lancé les heures adoucies. Les heures adoucies, c'est de 13h30 à 15h30, du lundi au vendredi, pour tous ces clients hypersensibles. C'est 2 heures de diminution de la lumière, ça c'est bien, mais aussi de diminution du bruit. Ouais. Parce qu'on parle de l'école, on parle de l'espace public, mais souligner les bonnes pratiques qui sont faites aussi par les entreprises privées, la grande distribution, c'est aussi important. C'est des lieux, c'est des enfants qui accompagnent leurs parents, c'est un lieu dans lequel on se rend tous pour faire nos courses. Donc voilà, je voulais le souligner, c'est important de le dire.
Oui, c'est une très très belle initiative qui montre qu'on peut faire des choses à toute échelle, hein, qu'il n'y a pas besoin uniquement de grands plans nationaux, qu'il n'y a pas besoin forcément d'être dans une association, à la tête d'une mairie ou d'un département, mais que chacun, dans son entreprise, peut arriver à faire des belles choses. Il se trouve que je connais très bien Aloïs Hamm, puisqu'il est directeur de Auchan, mais il a beaucoup d'engagement en Calade, notamment dans le domaine sportif et associatif. Il est extrêmement présent. Et c'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur dans tout ce qu'il entreprend, qui essaie de donner du sens, et on le voit à travers cette action-là. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions ces dernières années qui ont été menées sous son impulsion pour sensibiliser via Auchan à des causes humanistes. J'en suis ravi parce que je trouve que c'est mon supermarché, c'est là que souvent je fais mes courses, ma permanence parlementaire étant juste de l'autre côté de la rue.
Oui. Et voilà, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, tout ne repose pas sur l'État, tout ne repose pas sur les associations. On a des acteurs aussi qui se bougent et c'est bien d'en parler. Voilà. Donc, je vous propose la petite pause musicale. Alexandre, qu'est-ce que tu nous as sélectionné ?
Alors, j'ai évidemment des goûts très éclectiques, mais j'ai voulu sélectionner un titre qui pouvait faire écho à nos échanges sur la question du handicap et notamment de la difficulté que peuvent avoir les jeunes en situation de handicap à trouver leur place dans la société. Donc, le titre que j'ai choisi, c'est « Mon handicap » de Grégoire.
Merci. On l'écoute.
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd, qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux, qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, qui me fait mal.
Calade, ma radio locale curieuse et sans pub.
Vous êtes de retour dans l'émission Caval Calade sur Calade ma radio. Dans l'émission Caval Calade sur le thème de bande l'égalité, explorons le handicap à l'école avec notre invité, monsieur le député Alexandre Portier. Alors, pour notre deuxième partie, nous allons avoir une conversation avec Alexandre pour parler de notre territoire, de l'inclusion scolaire. Alexandre, est-ce que tu as commencé à le faire en première partie d'émission? Et là, j'aimerais que tu nous fasses un petit bilan, un petit peu plus, une photographie actuelle de notre territoire, la Calade, le Beaujolais, l'inclusion scolaire. Actuellement, on en est où? Quels sont nos besoins, quelles sont les bonnes avancées? Fais-nous une petite photographie, s'il te plaît.
Mission difficile.
Ouais.
Mais en fait, la question de l'école inclusive ne m'est pas tombée du ciel. Si j'ai choisi de travailler sur ce sujet rapidement en arrivant à l'Assemblée, c'est parce que j'ai été sollicité par des familles. En fait, ce sont d'abord les familles. C'est pas un ministre qui a débarqué, c'est pas un plan national qui m'a donné la motivation et qui a suscité mon intérêt. C'est pas tant le débat parlementaire que les besoins des familles qui venaient à ma permanence et qui me disaient on ne s'en sort pas, on n'y arrive pas, on a des difficultés. Et en fait, c'est en les écoutant, en entendant des situations humaines qui étaient extrêmement dures et bouleversantes pour certaines d'entre elles, que j'ai choisi de m'investir là-dessus et de creuser. Donc pour ça, je me suis d'abord tourné évidemment sur les acteurs locaux, et on a la chance dans le Beaujolais d'avoir un tissu associatif extrêmement fort. Beaucoup d'acteurs que certains connaissent. En Villefranche, on a par exemple la Givre,
oui,
qui est très impliquée,
oui,
avec plusieurs établissements sur Villefranche, sur Belleville, tout un maillage local, mais ce ne sont pas les seuls, qui accompagnent les familles au quotidien. Donc j'ai fait le tour ces derniers mois de tous les établissements pour comprendre les différentes problématiques, les différentes formes d'accompagnement, les besoins, les pratiques, comprendre le parcours qui était proposé aux familles et aux enfants, voir ce qui marchait, ce qui marchait moins bien, ce sur quoi on avait besoin de mettre plus encore de moyens de main et de renforcer nos expertises. J'ai écouté tout ça et j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait qu'en France, on puisse, et ça dépasse largement les frontières du Beaujolais, on puisse vraiment avoir une étape nouvelle dans la prise en charge du handicap à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on a évidemment réussi des choses ces dernières années, mais il y a aussi des vraies défaillances dans le système. Il faut avoir l'honnêteté de les reconnaître. On a eu une étape formidable qui a été accomplie en 2005 sous la présidence de Jacques Chirac, qui tenait à ça. Ça a été le vote de la loi sur l'égalité des chances qui a permis notamment l'inclusion scolaire, qui a permis de faire entrer le handicap à l'école pleinement. Ça a été un formidable succès, au point qu'on a triplé le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés. Donc sur le plan quantitatif, on doit tous reconnaître que ça a été une réussite.
Oui.
Sur le plan qualitatif, c'est évidemment beaucoup plus disparate. Et du coup, j'ai, au gré des rencontres qui ont été les miennes, eu la conviction qu'il fallait que l'Assemblée s'en saisisse. Et donc j'ai dans le cadre de la délégation aux droits des enfants, où je siège à l'Assemblée nationale, qui traite de toutes les formes de violence, de difficultés que peuvent rencontrer des enfants, j'ai proposé qu'on puisse avoir une mission d'information sur la question de l'instruction des enfants en situation de handicap. J'ai été suivi par mes collègues et la présidente de la délégation aux droits des enfants m'a confié une mission de plus de 6 mois qui m'a permis de creuser de manière très poussée le sujet, en nourrissant évidemment de toutes les rencontres faites sur le terrain, mais aussi en allant rencontrer beaucoup d'acteurs nationaux. J'ai réalisé plus d'une vingtaine d'auditions nationales à l'Assemblée, des dizaines de rencontres dans ma permanence, à l'échelle du département et au-delà. J'ai pu visiter beaucoup d'établissements, avoir beaucoup de courriers, de mails, consulter beaucoup de rapports, et même regarder ce qui se faisait à l'étranger. J'ai eu l'occasion d'aller voir à Londres comment était organisé le système de prise en charge du handicap à l'école. Et ça a été pour moi extrêmement éclairant, édifiant, et j'en ai énormément appris. Et à partir de tout ça, du coup, au bout de ces 6 mois d'enquête, j'ai pu présenter en novembre à l'Assemblée un rapport qui était fruit de tout ce travail-là, avec à la fois une partie de diagnostic pour mettre des mots et parfois des chiffres aussi sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, mais aussi proposer des recommandations pour faire évoluer en profondeur notre système et notre prise en charge pour la rendre meilleure, plutôt que plus performante, je dirais surtout plus humaine. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Je crois que c'est pas uniquement une question de chiffres, il y a besoin de moyens, mais derrière les moyens, il y a besoin de mettre du sens à ce qu'on fait. Et beaucoup de familles, la première chose qu'elles me disent, c'est qu'on n'y comprend rien. Il y a des cibles partout, des dossiers innombrables. Il faut qu'on puisse comprendre ce qu'on attend de nous, déjà. C'est pour ça que j'utilise le terme plus humaine. Je pense que c'est une priorité à part entière. Donc, il y a 35 recommandations, je peux vous parler plus en détail.
La solution, j'ai l'impression, c'est les AESH, en fait, c'est du personnel adapté pour chaque enfant, parce que chaque enfant et chaque handicap a sa propre difficulté, et donc il faut des personnes qui puissent s'adapter.
Alors j'ai regardé un petit peu sur le site EduSchool, oui c'est ça.
Oui.
J'ai vu qu'on allait avoir donc des interventions de professionnels d'équipes mobiles. Alors ça, c'est pas mal. J'ai pensé à notre Beaujolais, aux problèmes de nos petits villages dans le Haut-Beaujolais. On a des écoles en RPI déjà, Propière, Saint-Igny. Ces petites écoles qui sont un petit peu déjà isolées géographiquement, je vais parler par la topologie. On va avoir l'intervention de professionnels d'équipes mobiles médico-sociales à la scolarisation des enfants en situation de handicap. C'est les EEMAS, c'est ça, EEMAS. On parlait de difficulté parfois des termes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes. Donc j'allais y venir, ce sont des nouveaux partenaires sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. On a les crèches, on en a parlé tout à l'heure, maintenant c'est très très bien. Et puis ces nouveaux moyens, ces équipes mobiles, qu'est-ce que tu en penses, Alexandre ?
Alors je voudrais, c'est un point important, hein, la capacité à avoir un accompagnement souple. Mm-hmm. Et justement, je voudrais revenir sur le terme qui était employé, les AESH.
Oui.
Les accompagnements pour enfants en situation de handicap.
Oui.
Qui sont devenus véritablement une clé de voûte du système aujourd'hui de l'inclusion scolaire. Pour le meilleur, et aussi parfois, je dirais pas pour le pire, mais avec des difficultés réelles.
Ouais.
Notamment pour les AESH elles-mêmes. Si je dis elle-même, c'est que c'est un métier qui est composé à 96% de femmes.
Mmh.
Et quand je dis des difficultés, c'est que c'est un métier qui est extrêmement mal payé, auquel n'est rattaché aucun parcours de formation solidement établi, et des horaires de travail qui permettent pas de dégager des volumes de salaire satisfaisants pour en vivre correctement dans notre pays aujourd'hui. Et en fait, on en a fait une clé de voûte de notre système de prise en charge, c'est-à-dire que c'est les heures d'AESH plus ou moins importantes en fonction de ce que peut notifier la maison départementale qui va permettre d'accompagner l'enfant. Certains enfants vont avoir une AESH tout le temps et malheureusement certains vont avoir une AESH que sur une partie de leur temps scolaire. Vous avez des AESH qui vont avoir parfois plusieurs enfants à gérer et le pire du pire, parfois sur plusieurs établissements. Donc une difficulté organisationnelle qui est évidemment extrêmement éprouvante, des kilomètres, de la gestion, plusieurs interlocuteurs, des choses très compliquées. Mais c'est devenu une vraie clé de voûte avec ses réussites et ses difficultés. Clé de voûte puisqu'on a aujourd'hui 130 000 AESH dans l'éducation nationale. Ça veut dire que c'est devenu le deuxième métier le plus important de l'école.
Ouais. Est-ce qu'il faut revaloriser cet emploi ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions?
Alors c'est une vraie question. On a choisi quand on a fait cette mission, cette enquête, de pas tout centrer sur cette question des AESH. Premièrement parce qu'elle englobe pas toute la question de la scolarisation. La scolarisation, c'est pas juste du temps humain, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut enseigner. C'est les bâtiments, ce sont les programmes, c'est l'ensemble du parcours scolaire qui dépasse largement la question simplement de l'accompagnement humain. C'en est l'une des conditions, évidemment, indispensable, mais pas la seule. Et ensuite, on n'a pas voulu se focaliser totalement là-dessus, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de débats parlementaires là-dessus. On a quand même évoqué la question dans nos échanges, et lors des auditions, on a eu des postures radicalement différentes. Pour les uns, c'était l'alpha et l'oméga. Il fallait des AESH et il fallait un statut beaucoup plus solide pour les AESH, c'est-à-dire titularisé, mieux rémunéré, des cadres de la fonction publique, etc. Et puis à l'inverse, d'autres qui disaient il faut totalement sortir du système des AESH. Et en fait, c'était extrêmement frappant de voir telle divergence de vues avec des publics qui pourtant étaient confrontés aux mêmes réalités. Ma conviction personnelle, c'est que la réponse, elle est ni dans un extrême ni dans l'autre. C'est pas en se passant d'AESH et d'accompagnement humain qu'on arrive à inclure les enfants. Par définition, ce serait absurde. Mais c'est au contraire en allant sur des systèmes plus souples et pleinement adaptés. Ce dont on a besoin, c'est d'accompagnement sur mesure. Toutes les difficultés est de le construire. Je crois que le sur mesure, il se construit sur des territoires. Et que les moyens humains doivent être dimensionnés sur le territoire en fonction des besoins des familles. Et ce qui a renforcé ma conviction là-dessus, c'est la manière en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'Angleterre dans notre recherche? Parce que traditionnellement, quand on parle de prise en charge du handicap à l'école, on parle beaucoup de l'Italie. L'Italie a choisi le modèle du tout inclusif, confiant totalement aux écoles la charge du handicap. Et supprimant quasiment toutes les institutions, les structures associatives qui accompagnaient les familles et les enfants en situation de handicap. C'est un modèle qui n'est pas forcément totalement transposable dans tous les pays. Pour une raison, c'est que quand il y a des échecs, il y en a en Italie comme ailleurs, ce sont les familles qui récupèrent les enfants, et notamment les femmes. C'est une réalité sociale et culturelle italienne qui n'est pas forcément la même dans les pays du Nord, dans les pays anglo-saxons, etc. On aurait pu aller voir la Belgique, la Suisse, qui ont des modèles plus comparables aux nôtres et sur lesquels se reposent beaucoup de familles quand elles n'arrivent pas à trouver des solutions en France. Mais le pari qu'on a fait intellectuellement pour avoir quelque chose qui puisse nous challenger un peu, c'était de voir un pays qui repose beaucoup moins sur les solidarités familiales, qui est un pays plutôt de tradition libérale, pour se dire qu'est-ce qu'ils font dans ce type de pays pour arriver à accompagner les enfants. Et là-dessus, l'Angleterre, ça a été très intéressant parce qu'ils ont un système qui, en termes de solidarité face au handicap, protège autant que nous, mais par contre ils ont fait le choix d'avoir un accompagnement beaucoup plus organisé au niveau local. On a en France un système de l'éducation nationale qui est très centralisé, on dit jacobin, mais très centralisé sur Paris, où beaucoup de choses sont décidées à Paris, avec des cadres qui sont uniformes un petit peu partout.
Il nous reste plus qu'une minute trente, je suis désolé, je vous interromps, il va falloir que...
Je vais boucler, mais je crois qu'on doit aujourd'hui... donner plus de moyens, c'est sûr, mais ces moyens, si on veut qu'ils soient efficaces, les donner d'abord sur le terrain, donner des marges de manœuvre aux acteurs et notamment aux établissements en premier lieu.
Bah écoutez, merci beaucoup Alexandre, c'est extrêmement intéressant, je n'avais pas cette vision de l'école au-delà de nos frontières en fait, et c'est extrêmement intéressant. Mathieu,
je n'ai rien à rajouter. C'est très intéressant, effectivement.
Ah là, c'est toujours trop court.
Effectivement.
Je reviendrai.
Avec plaisir. Eh bien, écoutez, on va clore cette émission. On te remercie, Alexandre, d'avoir participé à notre émission. On te réinvite pour une prochaine fois avec grand plaisir. Il y a encore beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de choses à dire. Mathieu, merci encore.
Avec plaisir.
Merci à tous nos auditeurs. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, une excellente soirée, une excellente journée.
La cabale calade.
Calade.
radio.